À la une, au Mont d'Or, l'axe routier passant devant Saint-Louis était de nouveau fermé ce matin après un nouveau vol avec violence ce samedi. La route a finalement été réouverte cet après-midi après plusieurs interpellations. La lutte contre les feux de brousse, plusieurs incendies ont nécessité des interventions ce week-end, notamment à Wano ou encore à la Tontouta. La Foire du Pacifique, une édition 2024 placée sous le signe des sourires. Les exposants, les visiteurs, les organisateurs sont surpris du succès de cette première manifestation populaire d'ampleur depuis la crise insurrectionnelle. Une nouvelle distribution de repas de la Banque Alimentaire, 1500 repas étaient offerts notamment aux étudiants de l'Université de Nouville ce midi. L'actualité dans le monde, la préparation de l'anniversaire des massacres du 7 octobre en Israël. Près de 1200 hommes, femmes et enfants avaient été tués dans une attaque du Hamas sur l'État hébreu. Dans le Pacifique, un navire de la marine néo-zélandaise coule au large des Samoa après avoir heurté un récif. 75 passagers ont dû être secourus. Et le sport du football, Nantes prépare un grand choc. Ce soir, les joueurs d'Antoine Comboiré iront défier l'Olympique Lyonnais. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité ce dimanche soir, au Mont d'Or, la route de Saint-Louis réouverte ce soir et ce jusqu'à 18h. On rappelle que la RP1 avait été de nouveau fermée ce matin en cause un vol de véhicule avec violence survenu vers 17h40 hier. Les faits se sont produits au niveau du pont de Laty à 200 mètres du verrou nord. Un automobiliste a été victime d'un carjacking. L'homme s'est fait arrêter par plusieurs individus cagoulés. Il a été sorti violemment de son véhicule avant de voir ses agresseurs partir en direction de la tribu avec sa voiture et ses affaires. Cet après-midi, les gendarmes ont donc procédé à l'interpellation de 7 individus à Saint-Louis. Le verrou a été réouvert pour cette fin de journée et donc jusqu'à 18h. Une ouverture partielle qui sera maintenue demain si et uniquement si les conditions de sécurité sont assurées. Toujours sur les créneaux horaires 6h, 9h et 15h, 18h. Les convois seront escortés. Des véhicules de gendarmerie seront prépositionnés tout le long du parcours sur la RP1. Ce dimanche, cette nouvelle agression avait suscité l'émotion de nombreux Mondoriens, toujours inquiets des conditions de sécurité. Écoutez.
On reste dans l'attente, quoi. On attend juste que ce soit bien ouvert et sécurisé. On est comme tout le monde, on attend. Hein.
Je viens juste de la prendre. C'est un peu chiant quand même. Hein. C'est chiant.
On s'y attendait. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça n'allait pas changer comme ça du jour au lendemain. Malheureusement pour la personne, ça fait mal au cœur. Des faux espoirs aussi. Je ne prendrais même pas le risque de prendre ma voiture pour y aller.
La question était en suspens d'ailleurs hier. Je prends ma voiture, je prends pas ma voiture. Et puis hier soir, j'ai dit, je prends pas ma voiture.
Moi, je sors du Midipôle, alors je préfère prendre la navette. Hein. C'est bon, je ne vais pas retourner au Midipôle tout de suite. Voilà. C'est pas sécurisé, quoi. Il y a un problème, là. Bien malheureux, tout ça.
C'est pas possible de vivre comme ça, prendre le bateau, attendre. Et surtout pour les gens qui sont malades.
Dès que c'est ouvert, un carjacking, et puis on peut rien y faire en réalité, on n'est pas en sécurité.
On s'est dit pour rigoler ce matin, mais non, on n'y va pas. On va pas s'enlever. On va pas voir que juste le premier jour de la réouverture, il y a déjà un homme jacké. C'est pas la peine, quoi.
La réouverture partielle avait déjà nécessité un long travail de la part des autorités. La priorité pour les forces de l'ordre reste la sécurité des automobilistes face à des individus toujours dangereux qui sévissaient donc jusqu'à cette nouvelle vague d'interpellation cet après-midi. C'est une situation que déplorait ce matin le maire du Mont d'Or, Eddy Lecourieux.
Après 5 mois là, de fermeture, on était particulièrement content de cette offre qui était faite à nouveau aux Mondoriens de pouvoir circuler sur cet axe. Je crois que le matin, il y avait une petite quarantaine de voitures qui étaient passées, un petit peu plus l'après-midi. C'est terminé par ce carjacking. C'est abject, quoi. Hein. Je veux dire, les gens que j'ai eus, ils ont été révoltés, consternés par cette infraction. On en a marre, je crois. Je vois les gens, ils sont dégoûtés par l'attitude. Je veux dire, après tout ce qui a été fait, après tous les compromis qui ont été faits, après les interventions des uns et des autres, on arrivait encore. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette bande-là qui a agi. On parle de 5 personnes cagoulées. Est-ce que c'est le hasard de quelques-uns qui traînent encore dans la tribu ou est-ce que c'est encore fomenté par certaines familles qui ont refusé d'ailleurs que d'autres se rendent? Donc on sent qu'à la tribu, il y a encore un peu d'opposition. C'est un sentiment de consternation. Vous savez, quand on redonne de l'espoir aux gens et puis d'un seul coup, on leur enlève cet espoir, vous imaginez, moi, les coups de fil que j'ai reçus entre hier soir et ce matin. et les interventions qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc les gens sont très dépités.
Et hier, le haut-commissaire Louis Lefranc ainsi que le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général Mathéos et le procureur général Bruno Dalle s'étaient rendus sur place à Saint-Louis pour évoquer le long travail réalisé jusqu'à présent et pour détailler le dispositif de sécurité déployé progressivement pour laisser entrevoir une sortie de crise prochaine. Je vous le rappelle donc cette information ce soir, le verrou réouvert pour la fin de journée jusqu'à 18h, une réouverture partielle qui sera maintenue demain si et seulement si les conditions de sécurité sont assurées, toujours sur les créneaux horaires 6h, 9h et 15h, 18h. Les convois de voitures seront escortés et des véhicules de gendarmerie qui seront prépositionnés tout le long du parcours sur l'ARP1. Je rappelle enfin que la province sud a décidé de maintenir son service de navette maritime pour desservir le Mont d'Or Sud dans les prochains jours. Un autre rappel, il n'y aura pas d'assouplissement la semaine prochaine concernant les mesures toujours en vigueur. Le couvre-feu s'appliquera toujours sur l'ensemble du territoire de 22h à 5h du matin jusqu'au 14 octobre inclus. Concernant la vente d'alcool, elle est soumise aux restrictions actuelles jusqu'au 3 novembre. On rappelle, la limite est de 4 litres par jour et par personne pour les boissons de type bière, 2 litres pour les boissons n'excédant pas 22 degrés comme le vin, 1 litre pour les alcools forts. L'interdiction du port d'armes, de carburant et de rassemblement dans le Grand Nouméa a été prolongé jusqu'au 14 octobre. Le Premier ministre Michel Barnier se rendra en Calédonie le moment venu. C'est ce qu'il a annoncé dans un entretien accordé au journal La Tribune du Dimanche, Léana Colombo.
Michel Barnier déclare espérer trouver un chemin d'apaisement grâce aux mesures prévues dans sa déclaration de politique générale. Ces deux mesures sont le report des élections qui étaient prévues et la non-saisine du Congrès pour entériner le dégel initialement prévu du corps électoral. Nous prendrons le temps, au moins une année, pour en rediscuter et trouver un nouvel équilibre. Nous pouvons reconstruire un dialogue entre toutes les communautés, a-t-il précisé, en rappelant que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, effectueraient prochainement une mission en Nouvelle-Calédonie.
Les pompiers toujours sur le front des incendies aujourd'hui. Un peu moins de 4 hectares de végétation sont partis en fumée à Wanneau sur la commune de La Foy. 11 pompiers et 4 véhicules étaient engagés. Le feu a été maîtrisé peu avant 16h. Hier, c'est à Païta qu'un incendie a été signalé. 15 hectares de brousse ont brûlé du côté de la Tontouta. Les précisions d'Antoine Romain, directeur de cabinet de la mairie de Païta.
Ce feu était un petit peu embêtant du fait notamment du vent. Et évidemment, comme les autres communes de la côte ouest, de l'extrême sécheresse que nous connaissons actuellement. Donc fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts ni à des bâtiments, ni à des maisons de riverains, mais ça a nécessité quand même une intervention longue qui s'est poursuivie toute la journée d'hier, en raison notamment de la persistance de points chauds, qui est aujourd'hui sous surveillance. Si j'interviens sur votre antenne, c'est effectivement pour des consignes ou des conseils d'extrême prudence liés, un, à la sécheresse, comme je le disais, au vent qui se lève généralement, l'alizée, dans le courant de la journée, puisqu'on a eu sur les 15 derniers jours un nombre assez important de départs de feu. Nos communes sont aujourd'hui en risque soit très élevé, soit élevé. Donc il convient de repasser ces consignes d'extrême prudence aux abords du brousse.
Cet après-midi, les pompiers de Nouméa, cette fois, sont intervenus sur des feux de végétation volontaire à Nimbo et Montravel. Le plexus de Ducos a une nouvelle fois été incendié. Plus généralement, c'est tout le territoire qui est touché par cette multiplication des incendies. En province nord, notamment, près de 700 hectares de végétation sont partis en fumée en une semaine.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Également dans l'actualité de ce dimanche, la fin de la Foire du Pacifique 2024. Un événement qu'on vous a fait vivre au plus près sur RRB durant 3 jours. Le succès populaire est au rendez-vous. Nous sommes justement en ligne ce soir avec Bruno Aurelio de Pacific Fair. Bruno Aurelio, bonsoir.
Bonsoir.
À l'heure du bilan, évidemment, la Foire du Pacifique 2024 qui a refermé ses portes à 17h. Forcément, un organisateur heureux, on suppose.
Oui, très très heureux, comme l'ensemble des 250 exposants qui nous ont fait confiance cette année pour cette édition qui a été bien compliquée à organiser. Mais comme je disais sur votre antenne hier, on a bien fait d'insister, d'y croire et de croiser les doigts jusqu'au bout et... On est très très heureux, on a vraiment coché toutes les cases, le soleil, le sourire, des stands ravis parce que les Calédoniens sont venus à leur rencontre, voilà, sont renseignés, ont échangé, ont acheté. Donc vraiment une foire exceptionnelle à tout niveau.
Alors les personnes qui ont fait le déplacement ont pu le constater de leurs propres yeux. Hein. Évidemment, l'affluence était constante, beaucoup de sourires, beaucoup de bonne humeur. En termes de fréquentation, quelles sont les dernières estimations hein, durant ces trois jours d'événement?
Alors justement, je demandais les chiffres pour
c'est trop tôt.
Cette interview. Non, si, c'est bon, on les a. Donc on a fait 5000 visiteurs vendredi, 8000 hier, samedi, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, 6000 visiteurs. Donc si on compte bien, on arrive à 19000 visiteurs. C'est à quelque chose près autant que l'année passée. C'est magnifique, vraiment. On s'attendait, nous, de notre côté, à une baisse de l'ordre de 15%. Et en fait, on est... Il y a quasiment pareil, et j'ai pu comprendre que les chiffres d'affaires dans les stands, c'était quasiment pareil aussi. Donc je crois que les Calédoniens attendaient tous, de pouvoir se rencontrer, de sortir à nouveau, de faire la fête tous ensemble. C'était le message qu'on avait fait passer depuis des semaines, et je suis ravi parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans une ambiance vraiment bon enfant et familiale.
Quelle a été la plus grande réussite selon vous hein, sur cette foire, les ingrédients de ce succès?
C'est les ingrédients, je crois que c'est la joie de se retrouver. La joie de se retrouver et de passer un bon moment tous ensemble. Voilà, c'est, je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette foire 2024. C'est simplement la joie d'être là, la joie de s'amuser sur la scène, d'échanger avec des gens qui viennent de tout horizon, la province sud, la province nord, des îles, toutes les communautés. Voilà, ça a été vraiment le brassage de différentes communautés, et je crois que le cœur de la Calédonie, c'est ça aussi.
Alors, au sortir de cette foire du Pacifique 2024, est-ce que vous pensez déjà à d'éventuels ajustements, des réflexions, déjà savoir si vous avez l'ambition de vous lancer dans l'organisation d'une foire du Pacifique 2025?
Oui, vous savez, c'était la 14e édition. L'année prochaine, c'est nos 15 ans. Et 15 ans, c'est, ça se fête. C'est vrai que donc on espère vraiment que cette année, je ne vous cache pas qu'on a fait la foire avec très, très, très peu de budget. Donc j'espère que l'année prochaine, on aura un petit peu de budget pour fêter nos 15 ans dignement. Des idées, c'est pas ce qu'il en manque. Voilà, on a un an devant nous pour la préparer en espérant, j'imagine, que les conditions soient meilleures l'année prochaine. Et pour fêter tous ensemble 15 ans dignement, voilà, on a plein d'idées en tête. On vous réserve, je l'espère, de bien et grandes surprises.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Bruno Relio, merci encore.
Merci à RRB pour votre suivi et puis vraiment pour votre fidélité depuis 14 ans. Merci à vous.
Merci à Bruno Aurelio donc de Pacific Fair, organisateur de cette foire du Pacifique. Hein, on le disait, trois jours d'une belle ambiance, un rendez-vous qui a refermé ses portes ce soir. Les visiteurs qui ont pu profiter de 250 stands présentés de divers produits, notamment de l'artisanat, des offres promotionnelles, touristiques, pour organiser des vacances et bien d'autres. En tout cas, pour les exposants également, cette 14e édition de la foire du Pacifique est largement positive. Écoutez.
Le bilan, il est très positif pour nous. Rien que dans notre stand, par exemple, on a accumulé entre vendredi et aujourd'hui dimanche un peu plus de 1200 personnes. C'est quand même très bien. Donc on a fait des jeux auxquels on peut dénombrer une participation d'environ 600 personnes. Donc c'est très très bien. On est au-delà de nos attentes, donc on est très satisfait.
Stand ini adalah stand dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada.
Nous sommes le consulat général indonésien à Nouméa et nous sommes heureux parce que il y a eu beaucoup de visiteurs, à peu près une centaine. Donc on espère que dans les prochaines années, on va continuer comme ça.
Île Loyauté Explorer, hein. Au bout de trois jours, on est super satisfait pour le tourisme destination Île Loyauté. Et là, on a vu un peu les clients arriver. Donc, c'est l'occasion pour nous de renouer les liens, de bien expliquer, de parler de la situation et de voir que les gens, ils sont super contents de partir aux îles.
Déjà, il y avait le beau temps, ça, c'était bien. Et puis, même, il y a eu pas mal de monde, je trouve. Dans l'ensemble, les gens, ils étaient assez intéressés par les produits qu'on propose. Marais Salon de Co, à Poum.
Sonneray, les chauffe-eau solaires. On fait du chauffe-eau solaire et du photovoltaïque. Donc, on a beaucoup parlé de la hausse des prix, du rachat actuel, comme pour les chauffe-eau solaires. On est satisfait de la foire.
Voilà des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Et puis, vous le savez, votre radio était partenaire de ce rendez-vous. Et le tirage au sort du grand jeu RRB de la Foire du Pacifique 2024 a eu lieu à 16h. Et c'est Dorian Doué-Perret qui a remporté le gros lot, une nuit pour deux personnes à l'Oasis de Camou, à Lifou. Je vous propose d'entendre la réaction de la grande gagnante du concours.
Que je me présente à la Foire du Pacifique, oui, c'est la première fois. En plus que je gagne le jeu, je ne peux pas. Je ne m'attendais pas, je dis on va la tester quand même pour voir. Faut bien qu'un jour on gagne, du coup j'ai gagné, mais en plus le premier lot. Trop bien. Du coup, j'irai participer l'année prochaine encore.
Voilà pour la réaction de la grande gagnante. Le reste du palmarès de ce jeu RRB de la Foire du Pacifique 2024, Samine Teotea qui a gagné le deuxième lot, une nuit pour deux personnes au Koulnoué Village. Troisième lot, un vol découverte du lagon en ULM a été gagné par Étienne Nguyen. La Foire du Pacifique qu'on vous a fait donc vivre au plus près durant trois jours et même plus sur notre stand RRB depuis le site de la Foire et dans tous nos rendez-vous d'information et d'animation sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Toujours à Nouméa, sur la place des Cocotiers, c'était le rendez-vous mensuel, le grand vide-grenier de la ville. Plus de 250 stands étaient présents. Les visiteurs étaient nombreux à déambuler entre les stands pour chercher leur bonheur.
On vient de Brousse, de Calagomène, pour se promener, puis regarder les stands, visiter les stands. Comme les prix sont bien bas, et puis du coup, voilà, on regarde. On a pris un peu des casquettes, et puis des jeux de société à bon prix. Et puis voilà, on a profité un peu pour les enfants, pour la famille.
Pour moi, c'est un moment où je ne dois pas quitter Nouméa, je dois venir ici. Bah, vous savez, déjà, le vide-grenier, c'est déjà trouver le sourire des gens qui trouvent leur bonheur. On peut trouver des affaires. Moi, j'ai acheté des petites sculptures, j'ai acheté des palmes, j'ai acheté un sac étanche. Voilà, des petites choses. J'ai acheté la petite sculpture que vous voyez là, moi je la trouve très très jolie. C'est un margouillin hein, d'Australie, il me semble, parce que je vois le dessin, il est un peu d'Australie, mais c'est pas cher. Et puis ça permet aussi de lui donner une autre vie.
J'ai trouvé mon bonheur, j'ai fait une bonne affaire. Donc une canne à 500 francs et une glacière avec tout le long, en fait, il y a la grande, la moyenne, la petite et une petite gourde à l'intérieur à 3000 francs. Et là, il va faire chaud et les glaciers, on a besoin pour aller à la plage et petite canne à pêche.
On cherche des marmites, des poêles, comme c'est moins cher.
Et c'est vous qui choisissez ou c'est le mari?
C'est toujours lui qui choisit parce que lui, il aime bien faire des omelettes, c'est moins cher que dans les magasins.
Un reportage signé Kélinda Boicou. Une nouvelle distribution de repas de la banque alimentaire. Aujourd'hui, les bénévoles étaient à Nouville pour offrir de la nourriture aux étudiants de l'université, mais aussi aux familles dans le besoin et aux personnes âgées. Une opération qui a procuré un grand plaisir aux personnes dans le besoin.
Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative. Enfin, je suis contente que ce soit ouvert un peu à tout le monde. Et puis aussi, surtout, maintenant, avec le car à 500 francs, enfin, c'est pas tous les jours qu'on est libre pour aller prendre le car à 500 francs, aller prendre ses courses, revenir, quoi. Enfin, ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est de ce point de vue-là que je suis contente qu'il y ait la distribution aujourd'hui.
C'est génial, c'est bon, c'est... Voilà. Comme on n'a pas l'habitude aussi de... Oui, on n'a pas l'habitude de ce genre de repas là parce que voilà, d'habitude ils font dans des autres endroits, mais pas ici à Nouville. Hein. Et moi je trouve que c'est bon.
Donner à manger à tout le monde, c'est bien. Il faut que ça continue. C'est toujours bêtis.
Aujourd'hui je suis en GSD à la Banque Alimentaire. Mais là on fait un repas solidaire. Voilà, on a fait 1700 repas pour aujourd'hui.
C'est quoi qui a été proposé par les chefs de la Banque Alimentaire?
Au poulet sauce tomate. Ouais. Avec des pâtes.
Ça vous fait quoi de participer?
C'est important. Ben, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la crise, on essaie de, d'apporter notre... J'apporte mon aide pour les personnes qui en ont besoin.
Voilà, 1500 repas qui ont été distribués à cette occasion par la Banque Alimentaire. En bref, nous vous apprenions hier le décès de Wilfried Maï, président du syndicat des industries de la mine et de MKM. Il est décédé à la suite d'une longue maladie à l'âge de 62 ans. Parmi les nombreuses réactions aujourd'hui, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par voie de communiqué, écrit « Wilfried Maï laisse derrière lui un héritage remarquable. Il était reconnu pour son dévouement dans la défense des intérêts des travailleurs et des entreprises du secteur ». Fin de citation. Un communiqué également du MEDEFNC pour qui, je cite, le secteur minier a perdu l'une de ses figures emblématiques. Fin de citation.
Vous écoutez RRB, il est 18h04.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Les vacances scolaires ont débuté vendredi, ce qui signifie que de nombreuses activités sont organisées dans les centres de loisirs. Mais demain marque aussi le début du SNU, le service national universel. Léana Colombo.
Et à cette occasion, la vice-présidente du gouvernement, Isabelle Champmoreau, sera à 10h30 au lycée La Pérouse pour la cérémonie d'ouverture. Jeudi débutera à l'UNC une conférence dédiée au PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction. Louis Mapou, président du gouvernement, y prononcera un discours en présence notamment du haut-commissaire Louis Lefranc. Une conférence qui prendra fin le lendemain. Louis Mapou annoncera alors les perspectives du PS2R. Jeudi marquera également le retour des jeudis du centre-ville à Nouméa sur le thème de Tahiti. Ce week-end, place au Salon des collectionneurs qui débute ce vendredi à la mairie de Nouméa. Et enfin, ce samedi, Pointe-Boute organisera sa 10e fête agricole.
Vos rendez-vous d'antenne, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui sera notre invité du matin demain à 7h30. L'occasion pour lui de revenir sur son dernier déplacement à Paris et sa réaction après la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Nicolas Metzdorf, invité de la matinale, ce sera donc demain sur RRB. Et puis, à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Louis Mapou, le président du gouvernement, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Émission également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. 18h passé de 5 minutes. Une page de publicité avant d'évoquer l'actualité nationale et dans le monde. À tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal avec vous, Michael Juneski.
À l'actualité nationale, Emmanuel Macron participait au 19e sommet de la francophonie, organisé pour la première fois depuis 33 ans en métropole, en région parisienne. Le président français a exprimé sa position pour que la francophonie soit un espace d'influence diplomatique. Et en marge de ce sommet, il a également accordé un entretien à France Inter où il a notamment répondu aux critiques faisant le parallèle en Afrique entre francophonie et colonisation. On écoute Emmanuel Macron.
Alors c'est sans doute un passé qui n'est pas passé. Mais il y a aussi une très grande manipulation par beaucoup de réseaux sur cette question-là. Et il y a une forme d'enfermement dans un passé. Vous et moi, on n'a pas connu la colonisation. Alors on peut s'enfermer dans ce passé, sans fin, et dire on n'en sortira jamais. Mais non, il faut le regarder en face. Et donc il faut rouvrir ces questions de mémoire. On a ce lien avec des pays, en effet, anciennement de colonisation. Mais est-ce qu'il faut considérer que ce lien, il est irréductible, qu'on ne peut jamais en sortir? Et ça devient en quelque sorte le sous-jacent d'un nouveau panafricanisme, mais qui ne propose rien à la jeunesse. Parce que si ce n'est en quelque sorte une espèce d'histoire dont on ne sort jamais, je ne sais pas ce qu'on construit au travers de ça. Et surtout, je vois comment c'est récupéré par certains, qui sont les colonisateurs des temps présents. La Russie est la meilleure avec ses réseaux pour vous embarquer des jeunes derrière ce nouveau panafricanisme en disant ces cochons de Français vous ont colonisé, etc. Les mêmes qui mettent la main sur des mines de diamants, la main sur les pouvoirs, etc., qui font 10 fois pire que ce qu'on faisait quand on colonisait. À cet égard, la francophonie, de par sa création même, de par le fait qu'elle est décentrée, n'a rien justement de néocolonial. Elle est postcoloniale.
Lors de son discours d'ouverture, Emmanuel Macron a appelé à lutter contre tous les discours de haine. Il a également évoqué le cas du conflit russo-ukrainien et la crise au Proche-Orient en appelant à l'arrêt des livraisons de certaines armes à Israël si elles sont utilisées à Gaza, ce qui lui a valu des critiques virulentes du Premier ministre israélien. Emmanuel Macron a encore plaidé pour une région indo-pacifique apaisée où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix. Fin de citation. Un rendez-vous d'antenne cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos sera Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Émission que vous retrouverez en intégralité sur RRB demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans le monde dominée par l'anniversaire des attaques du 7 octobre. En 2023, le Hamas perpétrait des massacres sur le sol israélien, prenant par surprise les autorités de l'État hébreu. L'attaque a fait près de 1200 victimes, 7500 blessés, 240 personnes capturées et prises en otage. Partout en Israël, les images des atrocités perpétrées à cette occasion sont désormais ancrées dans la mémoire collective. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 Tel Aviv, Wilfried de Villers.
C'est comme si on avait jeté une grenade dans ma vie, j'ai tout perdu ce jour-là.
Le souffle court, Shahar s'appuie sur une canne. La jeune femme vivait dans le kibboutz de Kfar Aza jusqu'au 7 octobre. Depuis, elle tente difficilement de se reconstruire.
Quelque chose s'est éteint en moi ce jour-là. Je n'ai aucune idée de ce qui me pousse à me lever le matin, à rester en vie. Tout ce que je vois, ce sont des catastrophes.
Shahar souffre de syndrome post-traumatique. Adiel, lui, n'a pas vécu directement l'attaque du Hamas, mais il ne parvient tout de même plus à se sentir en sécurité.
Tu regardes toujours qui arrive derrière toi. Tu es aux aguets. J'ai le sommeil bien plus léger qu'avant. Dès que j'entends une moto qui accélère, je pense que c'est une sirène d'alerte. Je pense toujours à un endroit où me cacher en cas d'alerte, de tir de roquette.
Difficile aussi d'échapper aux images de l'horreur.
Parce que j'ai vu des vidéos de massacre. J'ai parfois des flashbacks en pleine journée. Alors maintenant, j'évite de regarder les infos. C'est une énorme source de stress. J'essaie autant que possible d'éviter d'avoir des pensées noires.
J'espère un jour pouvoir tout oublier, glisse le jeune homme, les poings serrés. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Marais, c'est le 101.5.
L'actualité dans la région Pacifique avec au Samoa, un navire de la marine néo-zélandaise qui s'est échoué sur un récif de l'archipel où il a pris feu avant de couler. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Long de 85 mètres, le Manawanui, un navire hydrographique de la marine néo-zélandaise, effectuait l'étude d'un récif proche de l'île samoane d'Upolu lorsqu'il s'y est échoué la nuit dernière avant de prendre feu et de couler quelques heures plus tard. Les 75 membres d'équipage du bâtiment et les spécialistes qui l'avaient embarqué ont été évacués au moyen de radeaux de sauvetage et par les bateaux qui s'étaient portés à leur secours. Trois d'entre eux ont toutefois été hospitalisés après avoir été légèrement blessés. Depuis Devonport, où le navire est habituellement basé, la ministre néo-zélandaise de la Défense, Judith Collins, a déclaré qu'une commission d'enquête sera mise en place afin d'établir exactement ce qui s'est passé. Elle a ajouté que le Premier ministre, Chris Luxon, a été informé de la situation. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 18h11, on voit une page de publicité avant de voir tout le sport.
Vous cherchez un véhicule d'occasion au meilleur prix ? Entretenu, révisé, garanti ? Au parking Birakem, en ce moment, 50 véhicules d'occasion sont à moins de 1 million. Alors c'est le moment d'en profiter ! 50 véhicules seulement, à moins de 1 million de francs. Rendez-vous au parking Birakem, au 4e kilomètre. Nous avons certainement votre future voiture. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Les avis de décès sur RRB, trois rendez-vous chaque jour avec les pompes funèbres calédoniennes et Transcor. PFC et Transcor, assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un numéro, le 27 41 11. PFC et Transcor, vous accompagner est notre priorité. RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Du football avec la 7e journée du championnat de France et le FC Nantes qui a rendez-vous ce soir sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Antoine Comboiré, le coach des Canaries, se méfie d'une formation de Lyon qui a retrouvé du mordant.
Ils ont des éléments de grande qualité. Ils peuvent faire, je crois, même trois équipes. Ils ont du monde et surtout beaucoup de talent. C'est une équipe qui est offensivement très forte. Là, on l'a vu sur les 4 derniers matchs, ce sont 10 buts de marqués. Voilà. La Cazette a retrouvé le chemin du but. Donc voilà, c'est une belle équipe. Donc à nous d'avoir des arguments dans le jeu pour pouvoir donc et bien défendre d'abord, parce que ça va être la clé. Puis après, profiter donc des situations qu'on aura pour aller essayer de marquer.
Lyon-Nantes à suivre dès minuit ce soir. Les autres matchs à venir, Brest-Le Havre, Strasbourg-Lens, Reims-Montpellier et demain matin Nice-PSG à partir de 5h45. Et puis en rugby, on suivra le dernier match de la 5e journée du top 14. L'AS Clermont affrontera le RC Toulon à partir de 6h05. Enfin, les sports mécaniques en MotoGP. Francesco Bagnaia a remporté cet après-midi le Grand Prix du Japon. Les Français Joan Zarco et Fabio Quartararo se sont classés respectivement 11e et 12e de la course.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koné, c'est le 98.
Le sport en Calédonie, le trail de Koné-Bois du Nord qui se déroulait ce matin. Première édition de cette épreuve qui a ravi les amateurs du genre. La victoire sur le grand parcours est revenue à Jonathan Berger devant Gabriel Espada et Johan Tsekolini. Emmanuelle Favard a fini meilleure féminine. Il y avait aussi une course à obstacles. On écoute Laure Papin de Challenge Organisation.
Super journée avec beaucoup de gens très contents de pouvoir refaire du trail dans le Nord. Donc on est très satisfaits, on a réussi à rassembler plus de 300 personnes là aujourd'hui au, au plateau de tango, donc c'était un peu inespéré pour nous, un bilan très positif. C'est vrai que c'est rassurant aussi de se dire qu'il y a toujours une demande, que les gens sont toujours partants pour venir faire des événements en Calédonie et partout sur le territoire. C'est aussi une découverte parce qu'on est sur un site qui n'avait jamais été ouvert effectivement pour un trail. On est sur une exploitation forestière à l'aire de repos du plateau de Tango. Et puis, alors effectivement, on n'est pas comme sur les raids du Nord au sein d'une tribu avec un repas organisé par la tribu, mais on est quand même en partenariat avec Netshout et Bopop qui sont sur ces terres et qui sont quand même venus proposer des petits produits, des casse-croûtes, des gamelles. Donc quand même, on retrouve un petit peu de l'ambiance qu'on aime dans le Nord.
Laure Papin de Challenge Organisation à l'issue de ce trail de Connais-Bois du Nord. 18h passées de 15 minutes, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous et bien pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, sur la façade Est et au Loyauté, le ciel sera passagèrement nuageux, mais le temps restera sec. Sur les autres régions, la nuit restera bien étoilée. Sur la côte ouest, le vent deviendra variable faible. Sur les autres régions, le vent d'est-sud-est sera compris entre 10 et 15 nœuds et localement de la pointe nord-est à Bellep entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales seront stables ce soir de 14 à 17 degrés dans l'intérieur. Sur l'ouest, Lifou et Marais de 18 à 22 degrés ailleurs. Demain matin, grand soleil sur la façade ouest. Ailleurs, quelques nuages circuleront, mais le temps restera généralement sec. L'alizé d'est-sud-est se maintiendra toujours entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds de la pointe nord-est à Bellep. Sur le sud-ouest, des brises s'établiront autour des 15 nœuds en fin de matinée et proche des 10 nœuds sur le reste de la côte ouest.
Merci Maxime. 18h passées de 16 minutes, la fin de cette édition.